pur avec Plus Haleine FM.
Bonjour à toutes et à tous, retrouvez votre émission L'Instant Nature, une émission proposée tous les 15 jours par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement Carolie Pontois. Cette émission est animée par Xavier.
Instant Nature, bonjour, merci de votre fidélité, merci d'être présent, merci d'être là avec Radio Plus Haleine. Bonjour Xavier qui est dans nos studios.
Bonjour Edwige, bonjour à toutes et à tous, et ben oui, malgré les petites interruptions, voilà la 10e émission de notre saison 2024-2025. Alors, aujourd'hui on va pas parler des mégots. Mais on va emprunter l'humeur du jour à la Ligue de protection des oiseaux qui vient de sortir un texte de protestation. Alors, nous le citons pour information et les auditeurs en font ce qu'ils veulent, bien sûr, hein, liberté. Mais voilà ce qu'écrit la Ligue de protection des oiseaux qui se mobilise du 13 au 21 mars, donc dans les jours qui viennent, partout en France, pour, je cite, « porter le deuil de la nature ». Alors voilà le message de la LPO, qui, on en parle souvent parce que cette association non gouvernementale fait énormément pour la protection des oiseaux en particulier et de la biodiversité en général. Cher ami de la nature, la biodiversité est en deuil, dit la LPO. Après un demi-siècle de progrès, nous assistons depuis plus d'un an à des régressions environnementales sans précédent, malgré l'urgence climatique et l'aspiration de nos concitoyens. L'érosion de la biodiversité menace nos écosystèmes, la sécurité alimentaire et notre propre santé. Un nouveau cap alarmant a été franchi avec l'adoption, le 20 février dernier, de la loi d'orientation agricole. Alors, on avait dit qu'on reviendrait sur cette loi, la LPO le fait pour nous. Dépénalisation des atteintes graves à la biodiversité, comme la destruction d'espèces protégées, l'arasement de haies champêtres, assouplissement des règles sur les pesticides et l'implantation des méga-bassines. En parallèle, des attaques injustifiables visent des associations et organismes publics essentiels tels que l'OFB, alors ça c'est l'Office français de la biodiversité, l'Agence Bio et l'ADEME. Des menaces sans précédent pèsent sur la Commission nationale du débat public et ainsi sur la démocratie environnementale, l'accès à l'information et à la justice. La situation est critique, ajoute la LPO, mais il n'est pas trop tard pour agir. Ensemble, exigeons des politiques ambitieuses pour la nature et dénonçons les décisions qui détruisent nos écosystèmes et compromettent notre avenir commun. Mobilisons-nous. Du 13 au 21 mars, la LPO porte symboliquement le deuil de la nature. Partout en France, les locaux de la LPO s'afficheront en berne et des manifestations seront organisées afin d'exprimer notre consternation et alerter sur l'effondrement du vivant et les conséquences désastreuses de ces politiques régressives. Alors, le discours de la LPO est assez violent, là. Mais si vous êtes d'accord avec, allez sur le site de la LPO et engagez-vous avec elle dans cette sauvegarde de nos milieux de vie. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le à la LPO et discutez. Car je crois que partout, le dialogue est mieux que les attaques les uns contre les autres. Et à ce propos, une information que j'ai eue récemment, le lycée agricole de Figeac, donc dans le sud de la France, je crois que c'est dans le Lot, le lycée agricole de Figeac organise entre ses élèves, donc de futurs agriculteurs ou ingénieurs agronomes, etc., mais des élèves motivés par l'agriculture et des agriculteurs, des dialogues sur les pesticides. Ça, c'est excellent parce que, comme le fait aussi la LPO et d'autres organismes, le dialogue avec les éleveurs à propos du loup porte ses fruits. hein, alors que les invectives, les injures réciproques ne servent à rien. Voilà pour l'humeur du jour. Alors, j'en rajouterai une petite, hélas, on vient d'apprendre que une catastrophe nautique a eu lieu en mer du Nord et que un pétrolier et un cargo se sont heurtés et que ben il y a du kérosène dans la mer et puis que le cargo transportait quelque chose à base de cyanure dont le contact avec l'eau peut provoquer l'émanation de gaz très toxiques pour l'homme. Donc une fois de plus, malgré la technologie, une erreur humaine, une imprudence fait que la mer du Nord va être polluée. Je ne sais pas si un jour on arrivera à une planète propre, mais battons-nous pour quand même, ne baissons pas les bras. Alors les brèves, bah justement, je rappelle que les Hauts-de-France organisent l'opération Les Hauts-de-France propres. C'est en fin de cette semaine, à Carlepont. C'est le samedi 15 à 9h que vous êtes conviés devant la salle des fêtes. Venez avec un gilet jaune parce que c'est plus prudent, puisqu'on ramasse le long de voirie. Hein, et on fournira des gants, des sacs poubelles. La veille, ce sont les enfants de l'école de Carlepont qui participeront. Mais l'opération a lieu dans toute la région Hauts-de-France et nos auditeurs de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme pourront trouver les lieux et les rendez-vous les plus proches de chez eux en allant sur le site www.hautdefrance-propre.fr. Et là, il y a une carte interactive qui permet, si vous êtes à Péronne, de voir ce qui se passe autour de Péronne. Si vous êtes dans la région de Crépy-en-Valois, vous trouverez ce qui se passe près de chez vous. N'hésitez pas à participer. En plus, c'est une opération qui est là, j'allais dire, presque unanime, puisque il y a des écologistes, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, et tous unis pour une nature plus propre. Et ça, ce type de rencontre permet aussi des dialogues. C'est par l'expérience des années précédentes, et c'est pas Edwige qui me contredira, c'est très sympathique, au moins à Carlepont.
Ah oui, oui, oui.
Voilà pour ce premier rappel. Alors, second rappel, il y a 15 jours, on avait fait une petite pub pour Patrimoine 2025, un week-end, une découverte. À propos d'animations proposées par la CC2V, la communauté de communes des Deux-Vallées, c'est notre voisine à Carlepont, de mars à octobre, sur inscription. Et ben, pour voir quoi, il faut aller sur le site www.devallées-attaché.fr/un-week-n-une-découverte-sans-accent. Donc, mais si vous tapez communauté de communes des Deux-Vallées, vous aurez les liens qui vous mèneront aussi à cette proposition. Et parmi ces propositions, plusieurs ont trait à la nature. Je crois que ça se passe à côté des étangs du Plessis-Brion. Alors, on parlait des problèmes de la loi d'agriculture, mais on parlait aussi dialogue et le mouvement Tous Paysans propose des choses extrêmement intéressantes. Alors, on peut aller voir sur le site www.touspaysansenunmot.fr. Et voilà ce que nous disent les organisateurs de ce site. Je vous lis leur proposition. Pourquoi avons-nous créé le mouvement Tous Paysans ? À force de regarder les chiffres clés, les constats, les perspectives d'évolution du monde agricole, nous nous sommes dit qu'il était l'heure de faire, modestement, notre part pour aider les paysans paysannes qui nous nourrissent au quotidien. L'association Tous Paysans soutient l'agriculture paysanne par l'organisation de chantiers participatifs visant à contribuer aux travaux agricoles et à faire découvrir le fonctionnement des exploitations, donc à des gens qui ne sont pas agriculteurs, bien sûr. Alors, il s'adresse aux agriculteurs en ces termes. Le principe de Tous Paysans est de proposer à des bénévoles des journées d'immersion et de découverte du monde agricole. Par immersion, nous entendons à la fois un échange sur vos activités et une contribution réelle à vos travaux agricoles. Vous êtes prêt à ouvrir votre exploitation, à présenter votre activité, à partager vos réalités avec un groupe de bénévoles, tous paysans. Vous avez des chantiers ou des travaux agricoles pouvant être réalisés par des novices avec un minimum de formation. Vous avez besoin d'un coup de main ponctuel suite à un problème. Nous vous invitons à proposer un chantier. Donc, créer des rencontres, ça ne peut qu'améliorer les choses. Et alors, il rappelle aussi quelques chiffres clés et tendances qui poussent à agir. Et là, ils font un bilan qui est très très honnête de la situation de notre agriculture. 50% des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite dans les 10 prochaines années et près de 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Or, cette agriculture, elle nous nourrit. 40 000 nouveaux paysans devraient s'installer chaque année si on voulait remédier à la disparition des fermes et généraliser la transition agroécologique. Et bien sûr, vu les difficultés, ce n'est pas un métier qui attire aujourd'hui. 80 000 agriculteurs sont en difficulté et presque plus de 15 000 agriculteurs et leurs salariés ne touchent que le RMI. Hein ? C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas de leur travail alors qu'ils font des 60, 70, 80 heures par semaine. Donc il y a une crise bien réelle, avec en plus, dernier point, l'agriculture est directement impactée par les aléas climatiques, mais la solution du problème, elle est vers l'encouragement à cette agriculture plus écologique et pas à renforcer une agriculture qui détruit la nature. Hein ? Et c'est dans ce sens-là que la législation devrait évoluer, aider les agriculteurs, mais les aider à produire mieux pour notre santé et pour leur bien, puisque des milliers d'agriculteurs souffrent de maladies provoquées par les produits qu'on leur a imposés d'utiliser. Voilà. Hein. Donc là, je pense qu'on a les deux volets du problème. On est en solidarité avec les agriculteurs en difficulté et on est aussi combattant pour une agriculture moins polluante. Hein ? C'est notre aspect dialogue. Alors, on va terminer avant la musique par une information de piochée dans Télérama du 5 mars et également sur Wikipédia. Cauchemar de béton en Arabie Saoudite. Alors, on lit sur Télérama, sur Wikipédia. En 2022, Philippe Oldfield, enseignant-chercheur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, critique le fait que ce projet aurait une empreinte carbone d'environ 1,8 gigatonnes d'équivalent CO2 dans le verre, l'acier et le béton, car vous ne pouvez pas construire un bâtiment de 500 mètres de haut avec des matériaux à faible teneur en carbone. Selon Oldfield, l'étalement sur 170 km créerait une barrière à grande échelle pour les écosystèmes adjacents et les espèces migratrices, similaire à celle créée par les autoroutes, et la façade extérieure en miroir serait dangereuse pour les oiseaux en particulier, une des grandes routes migratoires passant par la mer Rouge. Alors, comme vous l'avez compris, effectivement, l'Arabie Saoudite prévoit un chantier démentiel, construire une barre de 170 km de long et 500 mètres de haut. Vous avez bien entendu, 170 km de haut, c'est-à-dire de Carlepont au cœur de la Belgique, hein, sans interruption, avec des façades en verre, et on prévoit d'y faire loger 9 millions d'habitants en 2045. Ça apparaît complètement fou.
Oui.
Hein, complètement fou. Voilà ce que j'ai découvert donc, dans ce Télérama. Alors, on va s'arrêter là un instant et on va revenir pour la troisième fois à Joseph Boulogne de Saint-Georges. Ça vous avait plu la dernière fois. On remet ça avec un quatuor à cordes opus 14 numéro 3 en fa mineur, le premier mouvement. Edwige, à toi.
Thank you.
Comme c'est beau. Voilà, Xavier dort.
Non, pas du tout. Non, c'était un peu plus lent que les deux morceaux précédents. Bon, on va laisser Monsieur de Saint-Georges de côté. La prochaine fois, on va essayer de trouver autre chose. Hein, on en a fait la découverte et je rappelle que c'est du temps de Mozart. Et là, dans ce mouvement, on discernait bien une sorte de dialogue entre violon et violoncelle, notamment. C'était pas inintéressant.
C'est joli comme tout.
Voilà. Eh bien, on reprend nos brèves et on va parler d'une association qui s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat et sur laquelle j'ai été informé par l'hebdomadaire La Croix l'Hebdo du 18 février. Alors voilà ce qu'on nous raconte sur le site de cette association. Au collectif Les Pieds dans le Plat, on se bat pour une France où les écoliers mangeraient du fait maison et des légumes bio du coin, plutôt que des portions préparées ailleurs, à l'avance, dans des immenses cuisines collectives et distribuées dans des récipients individuels. Cette association de diététiciens et de cuisiniers appuie les collectivités locales qui s'engagent en faveur du retour de vraie cuisine dans les établissements scolaires. Et c'est vrai que moi, pendant ma carrière de professeur, j'ai eu la chance d'être dans un établissement scolaire où on cuisinait sur place et c'était de bonne qualité, il faut bien le dire. Alors je reviens à cette association. Plusieurs centaines d'écoles et de collèges ont sauté le pas, à commencer par le département de la Dordogne, le tout pour des coûts inférieurs à ceux des cuisines centrales, source de gaspillage et de pollution. Donc il faut aller voir sur le site. Et on a Olivier Rollinger, qui est un chef triplement étoilé, qui est parrain du collectif et qui nous présente les objectifs. Transmettre le goût d'une cuisine écologiquement saine à nos enfants, c'est savoir, dit-il, cuisiner les aliments bruts, bio, végétaux locaux, de saison, en circuit court et issus du commerce équitable. C'est accompagner les cuisiniers et cuisinières à éviter les aliments ultra-transformés et à lutter contre le gaspillage en réduisant nos déchets. Expérience intéressante et qui rejoint nos conseils de la semaine, d'ailleurs. Hein? Alors, dans La Croix l'Hebdo du 13 février dernier, il y a l'examen d'un cas de conscience. Les fleurs sont-elles vraiment un cadeau? Et je vais vous citer quelques extraits de l'article. On avait déjà fait un dossier sur les fleurs coupées. Voilà comment commence l'article de La Croix Hebdo. « Je me sentirais mal de venir déjeuner chez ma mère ou d'arriver le soir de la Saint-Valentin sans un bouquet. C'est un peu le minimum », reconnaît Félicien, 34 ans. Il a même déjà réservé 20 roses chez son fleuriste tourangeau pour éviter la pénurie du jour J. Et les pesticides ? Il paraît qu'il y en a beaucoup, mais offrir des fleurs est un réflexe tellement ancré. Mais si c'est quand même toxique, il faudra bien changer d'habitude et se mettre à offrir des bonbons, comme dans la chanson de Jacques Brel. Un peu plus loin, on nous rappelle que, d'après la revue Human and Ecological Risk Assessment, vous pardonnerez mon accent anglais, la revue rapportait la présence de plus de 100 pesticides, dont certains interdits depuis longtemps en Europe, sur les fleurs et les mains de fleuristes belges. Et pour cause, nous dit l'article, en Belgique comme en France, environ 85% des fleurs proviennent de l'étranger, dont une grande partie cultivée hors d'Europe. Des résidus peuvent être observés sur ces fleurs, issus de traitements phytopharmaceutiques qui peuvent être approuvés dans les pays tiers, mais pas en Europe. Et on avait déjà parlé de ça. En plus, ces fleurs qui voyagent en avion, qui ont été cultivées dans des conditions sociales déplorables, les ouvriers de ces pays lointains n'étant pas protégés contre les poisons. Alors, il y a eu une réaction. L'article continue en nous rappelant. Lancé en 2017, le collectif de la fleur française regroupe 650 professionnels qui s'engagent à proposer une production locale et de saison pour au moins 50% de leur offre. Le problème, c'est que ben, il n'y a pas assez de fleurs coupées produites en France aujourd'hui, surtout en hiver, et particulièrement à la Saint-Valentin, où elles sont très demandées. Alors là encore, il faudrait peut-être songer à multiplier cette production florale locale et correcte sur le plan écologique. Ça créerait des emplois et ça éviterait de s'empoisonner en offrant des fleurs, ce qui est pourtant une belle chose.
Oui, c'est quand même malheureux. Oui.
Voilà pour cette histoire de fleurs. Alors, l'ONG Frères des Hommes nous adresse son bilan de 2023-2024 et nous montre notamment comment elle a agi au Rwanda pour agir ensemble pour un avenir durable. En Haïti, pour soutenir les paysans vers le développement durable. Donc là, c'est une association non gouvernementale qui associe l'aide aux gens les plus démunis dans le reste du monde à des solutions respectueuses de la planète. Donc ça, c'était l'ONG Frères des Hommes. Et on arrive au conseil de la semaine. Eh bien, chers amis de Radio Puisalène, il faut arrêter de tailler les haies. Bon, on vous laisse jusqu'à la fin de la semaine, mais les oiseaux, réveillés notamment par la chaleur de ces derniers jours, alors aujourd'hui ça rebaisse, mais ils se sont bien réveillés, on les entend chanter, ils viennent moins à nos mangeoires, ils ne vont pas tarder à nidifier, donc on arrête de tailler les haies. Et puis, on arrête aussi, d'ici la fin de la semaine, de nourrir les oiseaux. Vous avez peut-être vu dans vos jardins, les insectes réapparaissent et ils vont constituer le régime alimentaire de printemps de nos petits amis et de leurs oisillons. J'ai eu le plaisir de voir les premiers papillons. N'oubliez pas que les papillons, à l'instar des abeilles, sont des pollinisateurs et les arbres fruitiers commencent à fleurir. Alors là, on croise les doigts. C'est un peu tôt, surtout si ça refroidit. Pourvu que nos fleurs d'arbres fruitiers ne gèlent pas et que les insectes que nous protégeons puissent les polliniser. Et puis, mangeons local, de saison. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est un peu notre maître mot ici à la SEC. Privilégions les circuits courts. Et puis, ben, pour les fraises, on va attendre que nos producteurs de fraises du Noyonnais nous les apportent sur les marchés.
Au mois de juin.
On n'a pas besoin d'acheter des fraises produites à l'autre bout de la planète ou même du continent. Alors, la rubrique à lire, à voir, à écouter ou réécouter. L'association, le WWF, qui est une association qui protège la diversité, la biodiversité, publie tous les trimestres un petit magazine qui s'appelle « Sur les traces du panda ». Le numéro 119 vient de sortir et vous pouvez le consulter en ligne. Dans le numéro de ce trimestre, « La biodiversité en Afrique » et un dossier sur le fléau de l'orpaillage en Nouvelle-Calédonie. La une du numéro nous emmène en Guyane, où est déployé le programme des gardiens du Haut-Maroni que l'association soutient aux côtés de l'Office français de la biodiversité et d'une fondation qui s'appelle Anyama. L'objectif, aider la communauté amérindienne Wayana à protéger son territoire face à la menace de l'orpaillage illégal. Alors l'orpaillage, c'est la recherche des pépites d'or dans les rivières, hein, qui se caractérise notamment par l'utilisation du mercure pour faciliter la récupération des paillettes d'or. Rejeté dans la nature, ce mercure a un impact dévastateur sur les rivières, la faune et la flore. Et ajoutons que ce métal est hyper dangereux pour l'homme et provoque des maladies inguérissables. Et quand on pense qu'au XVIIe siècle, on soignait certaines maladies par le mercure, je pense que ça faisait pire que bien. Et d'ailleurs, nos dentistes n'utilisent plus de mercure pour les plombages, hein, chose qui devait se faire il y a quelques décennies. Alors sinon, Écoutez, on vous recommande, et Edwige nous excusera, les émissions de France Inter le dimanche à 13h23. Dimanche dernier, CO2 Mon Amour de Denis Chessoux faisait une demi-heure sur Pierre de Ronsard, le poète de la Renaissance et la nature. Quant à Carnet de campagne, tous les jours à 12h30, parce que 13h30, c'est nous sur Radio Puisalène, Dorothée Barba témoigne du quotidien dans nos territoires. On voit des initiatives intéressantes, des belles personnes. Et par exemple, le 5 mars, c'était le Rucher École de Réalmont dans le Tarn, une association qui forme à l'apiculture de loisirs depuis plus de 50 ans. Et l'apiculture, essentielle pour notre production de fruits et légumes, bien sûr. Hein, puisque les abeilles sont irremplaçables par leur pollinisation. Le 25 février, c'était sur la seconde main avec Free From Désir, qui est une petite entreprise basée à Aix-les-Bains, qui se déplace pour convaincre le plus de monde possible d'avoir le réflexe des vêtements d'occasion. C'est une friperie itinérante, elle s'installe temporairement chez des fleuristes, dans des épiceries, des restaurants ou des boutiques en tout genre. Elle fait un travail précieux aussi pour soigner l'estime de soi des personnes fragiles. Bien, je vois que l'heure arrive. Je pense qu'Edwige a son émission après.
T'inquiète, t'as le temps.
J'ai fait le tour de la question. Ah non, j'avais une dernière chose à recommander dans les lectures. Le Télérama qui vient d'arriver, donc j'ai même pas eu le temps de le lire, mais fait un très beau dossier. Donc vous pouvez vous procurer cette revue. Je crois qu'elle est en vente dans les maisons de la presse. Télérama, qui est une revue télévision, radio, cinéma. 20 ans après, quel bilan pour le bilan carbone ? Pensé pour les entreprises, le bilan carbone s'est popularisé, mais montre ses limites. Au-delà de la vertueuse comptabilisation énergétique, quelles actions concrètes ? Compter, mesurer ne suffit pas pour agir. Donc un très beau dossier de plusieurs pages dans le Télérama qui vient d'arriver. Voilà, et pour le coup, on a fait notre demi-heure, on est dans les temps, j'ai dit tout ce que je voulais dire. La semaine prochaine, je pense, rediffusion, et on se retrouve dans 15 jours, bien sûr.
Merci Xavier pour toutes ces belles et bonnes informations sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc dans 15 jours, dans 8 jours, c'est rediffusion. Et puis le petit jardin de Puisalène, ça commence tout de suite. Merci Xavier, bon après-midi.
C'est vraiment bien parce que le petit jardin, après l'instant nature, on ne pouvait pas faire mieux comme couplage d'émission.
Ouais. Merci Xavier, très très belle après-midi sur Radio Puisalène. Tout de suite, la musique continue. Excellent après-midi.
Puisalène, le meilleur de la musique. 92.5,
99.1,
100.9, Radio Puisalène.
Radio Puisalène.